Et Essaouira, en fait, c'était un port portugais au XVIe siècle. Ça s'appelait Mogador. C'est là qu'on venait chercher la pourpre pour faire la couleur rouge avec un coquillage qui s'appelle le murex. Donc il y avait tout un commerce avec ça. Les Portugais étaient là. Donc il y a des forts qu'ils ont laissés. Et puis surtout, c'était un port sur la route des esclaves. Donc entre Mogador, entre Essaouira, il y a l'Atlantique. Et puis de l'autre côté, il y a la suite de la route des esclaves noirs. Ici, ils sont les Gnawa. Et puis de l'autre côté de l'Atlantique, on les retrouve au Brésil. Donc il y avait des musiciens invités brésiliens. Une espèce de rencontre entre les Gnawa et le Candomblé, ici à Essaouira, 4 siècles après les Portugais. Comme un retour sur cette histoire.
سيدي حمودة شريف الوالي حمودة وداك قناوي حمودة ديف الوالي حمودة يا بابا حمودة يا سيدي حمودة يا الله بابا حمودة يا بابا حمودة حمودة يا بابا حمودة يا الله بابا حمودة وجيت نداوي حمودة لا لا ميرا حمودة حمودة وداك الوالي حمودة حمودة شريف الغالي حمودة حمودة لا لا القناوي حمودة حمودة داك السوداني حمودة حمودة القرق بجادي حمودة حمودة ضرب الناقي حمودة حمودة يا بابا حمودة حمودة يا سيدي حمودة يا الله بابا
Comment et quand sont-ils venus ici dans cette région? Moi, je pense à ce père, je le disais, je crois, avant-hier, à l'arbre à palabre. Ça se perd même dans l'histoire. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours des mouvements de va-et-vient entre les différentes régions, malgré les obstacles. Entre le Maghreb et l'Europe, il y a l'obstacle de la mer, c'est pourquoi il n'y avait pas beaucoup d'échanges. Mais le Sahara, c'est peut-être moins un obstacle de moindre danger. Je veux dire que la mer, par exemple. Et donc, il y a eu de tout temps ce va-et-vient entre donc, la population du nord du Sahara et la population subsaharienne. Et puis, lorsqu'on essaie, par exemple, de comprendre, nous, l'histoire des premiers habitants du Maroc. On nous dit les premiers habitants sont les Berbères. D'où sont venus les Berbères? On nous dit que la Berbérie, au fait, ça va de l'Atlantique au sud du Maroc jusqu'à la mer Rouge. Après, lors de l'expansion de l'islam, les Arabes allaient arriver ici. C'était au 8e siècle, je pense, fin 7e, 8e siècle, ils arrivent ici. La plupart d'entre eux, ils sont arrivés par la route du Sahara. Pour une raison simple, c'est qu'ils vivent au Sahara, au Moyen-Orient, en Arabie. Ils sont habitués aux routes des caravanes, ils sont habitués aux chameaux. Et juste quelques-uns, ils allaient arriver plus tard par le nord, par l'Afrique, je veux dire par la côte méditerranéenne. Beaucoup de dynasties marocaines, ils nous viennent du sud. La grande dynastie, par exemple, les Almohades qui a régné sur le Maghreb, sur une partie du Niger, sur la Mauritanie, sur une partie de l'Algérie, mais la Tunisie, les Arabes qui sont allés jusqu'à Poitiers, qui ont colonisé, si l'on veut, l'Espagne pendant des siècles, c'était originaire du Sahara. Ils étaient venus du Sahara. Et un peu plus tard, à ce moment-là, il va y avoir un flux beaucoup plus important de cette population noire. Soit, comme je disais tout à l'heure, qui embrassait l'islam, qui venait dans le sillage des autres, soit qui venait comme esclave, entre guillemets, qui travaillait esclave, il ne faisait pas des choses vraiment méchantes, il travaillait surtout dans les palais, et il faisait la cuisine. Il travaille dans les harems. C'est vrai, on castrait certains noirs pour les laisser surveiller les femmes de certains palais. Ça, c'est vrai, mais ils n'étaient pas nombreux. Et il arrive ceci. L'un des rois de l'actuelle dynastie alaouite, qui s'appelle Moulay Ismaïl, comme il y avait beaucoup de luttes tribales, il craignait les renversements. Il craignait pour son pouvoir central. Donc, il a jugé bon de constituer une armée de Noirs. Et donc, vous imaginez, il constitue autour de lui une armée de Noirs en qui il a confiance. Il les fait jurer sur un livre sacré qui s'appelle Al-Bukhara. Et là, on les appelle Abid al-Bukhara. Il existe d'ailleurs ici à Essaouira une mosquée. Parce que ce Moulay Ismaïl, donc, il va constituer une armée de Noirs. Mais après sa mort, l'armée sera dispersée. Et c'est de là que viennent les quelques noirs qu'on retrouve dans certaines villes. Et la plupart de ces noirs qui vivaient bien sûr, le roi était un Meknès, non pas un Fazil, il était un Meknès, il avait donc toute son armée là. Après sa mort, son armée sera dispersée. Et certains finiront par venir à Marrakech, d'autres à Essaouira. Et donc la preuve, il y a ici une mosquée, l'une des premières mosquées qui s'appelle Mosquée Bukhara. Par référence à ces habits de Bukhara de Moulay Ismaïl. Et il y a aussi, avant ce Moulay Ismaïl, il y avait un autre roi souverain, Al-Mansour Dhabi. Al-Mansour Dhabi, ça veut dire le victorieux, l'odoré, parce que lui, comment dire, il avait découvert, il avait colonisé des mines d'or. Là au sud dans l'espace subsaharien. Et donc l'odoré lui, parmi les autres choses qu'il a fait, il avait fait à ce moment-là, les Marocains comme aujourd'hui, ils consommaient beaucoup de sucre. Le sucre était rare, il était cher, et des fois même ils payaient beaucoup d'or pour acheter du sucre. On disait même qu'il payait les marbres qu'il a mis dans son palais avec leur pesant d'or. Il avait tellement d'or, on l'appelait le doré. Lui aussi, il avait fait venir beaucoup de noirs. Or, autour des Saouris, il y a peut-être des centaines de noirs. Il y a même 10 villages entiers de noirs. Et ces noirs, justement, proviennent de cette période où le Mansour Dhabi les a fait travailler dans les sucreries. Et cette population est restée sur place. Et ils ont hérité les terres, ils sont devenus citoyens contre les citoyens. Et certains ont leurs enfants bien placés dans différents postes, etc.
Salle Boussou. Alors, comment je suis arrivé à jouer dans le festival? Moi, je suis aussi. Je suis parmi les gens qui ont fondé aussi ce festival. Les premières initiatives d'Ignawa aussi. Moi, j'ai participé à la première édition, toutes les premières éditions avec mon père, bien sûr. Et donc, le festival, c'est aussi mon bébé aussi, quoi. Je le défends de ma façon aussi, de jouer, de présenter quelque chose, de défendre aussi la culture et tout le principe des festivals. Le parcours, ça commence toujours avec le père, quoi, Ami Daboussou, et comme ils veulent la tradition, c'est l'héritage, quoi. C'est la transmission de père en fils. Donc je suis sur le chemin et sur les traces, quoi. Bah, c'était quelque chose qui est mystère pour les jeunes. Il y a quoi, il y a 10 ans ou 15 ans que maintenant on voit que la curiosité et l'amour de la musique Gnawa, ça a poussé aussi les gens à aller loin. Et même maintenant aujourd'hui, on se balade dans les rues, on trouve plein de jeunes avec des carcabous, plein de jeunes avec des gambris. C'est devenu vraiment un truc comme plus que populaire même, c'est un truc, quelque chose qui vit quotidiennement avec la population. Avant, comme je dis, les ancêtres et avec les gens qui ont été avec nous, en fait, avant nous, c'était quelque chose de sacré, c'était quelque chose de secret aussi. Et voilà, on n'osait pas. Ma génération, moi, heureusement que j'avais un papa qui est Gnawi, sinon je ne saurais pas grand-chose dans le milieu, dans cette tradition. C'était un tabou quelque part pour accès comme ça, non, c'était pas comme ça. Aujourd'hui, c'est vraiment l'ouverture, c'est la conciliation, moi, je trouve que c'est super, quoi. Je ne peux pas te dire que tous les jeunes et que tous les fans de Gnawa maintenant, ils connaissent les secrets et le fond de la tradition. C'est loin de là. C'est vraiment quelque chose qui reste. Moi, je ne peux pas donner tout ce que je possède, qui me fait de moi mal l'homme ici. Je ne peux pas donner ça comme ça. J'ose même pas, parce que moi, quand je joue dans un festival comme ça, c'est spectaculaire, c'est la musique Gnawa, c'est la fusion, c'est tout ça. Il n'y a rien de rituel dedans, quoi. Il n'y a que de la musique, c'est la musique, c'est spectacle et c'est tout. Et c'est ça ce qui fait que ces jeunes-là et cette génération-là, ben, je parle des gens qui sont pas descendants des Gnawa comme moi, comme Cheb, comme tous les Gnawa de père en fils, quoi. Il y a la musique, mais il n'y a pas de rituel, il n'y a pas les secrets fondamentaux de mystère du Gnawa, quoi. Ben, moi, j'ai jamais vu un groupe de Gnawa qui met des rituels là sur scène. J'ai vu de la musique Gnawa. Mais quand je parle de côté rituel, tout ça, c'est quand je parle de la guérison, le côté spirituel de Gnawa, je veux dire, guérir les gens, aider les gens à être bien. Dans ce sens-là, c'est ça ce que je veux dire par rituel, quoi. Mais tout ce qui est spirituel, bien sûr, quand on fait appel à un esprit dans un morceau et tout, voilà, c'est de la musique aussi, mais ça reste spirituel, ça touche l'esprit, ça parle à quelque chose, quoi.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad.
J'ai peur aussi quelque part que la tradition peut compare à tout ce qui est sacré et fondamental dans cette tradition, quoi. J'ai peur parce que là, ça, la musique, tant mieux, c'est bien, ça, tout le monde connaît, ça fait vraiment de la promotion dans le monde entier. Mais j'espère que moi et d'autres et toute la génération font aussi quelque chose au niveau des secrets de la musique gnawa pour que ça reste aussi riche et sacré et grand. Il faut aussi protéger ces secrets, ces bases qui sont vraiment importantes, quoi. J'espère bien. Moi, c'est ce que j'essaie de faire. Avec ma troupe, avec mes musiciens, avec les gens autour de moi, c'est ce que j'essaye de faire. J'espère que tout le monde fait pareil, quoi. Si je suis pas d'accord, ou bien ce que je pourrais pas être d'accord, c'est quand on massacre, par exemple, les thèmes traditionnels pour faire un thème commercial, par exemple, ou faire de la musique techno. Ça, moi, je trouve que ça, quelque part, c'est un massacre. Il n'y a pas de respect, quoi. Mais quand on représente les choses bien et quand on essaie aussi de faire du thème et de la musique du Nawak, quelque chose qui est propre, quelque chose qui est musical surtout, bien sûr, c'est l'idéal, quoi. Quand je suis sur scène, je ne suis pas le même quand je suis dans la cérémonie. Dans la cérémonie, il y a plus de sérénité, il y a plus de... T'es là pour contrôler la situation, tu es le maître de la lila dans la cérémonie. Alors il faut avoir l'attention, il faut avoir vraiment comment s'adresser aux gens, comment voir les gens, comment aussi représenter aussi les choses, parce que c'est une atmosphère qui est un peu particulière et c'est une responsabilité. Donc ça te fait... Tu te comportes pas comme les jours normaux, quoi. C'est un moment particulier. La scène, c'est mon terrain de m'éclater aussi, de jouer, de sauter et tout. Et plus de sérénité dans les cérémonies, c'est sûr. Ben, je crois que cette fierté aussi, c'est la fierté de Gnawa, la fierté d'un Malem, c'est certainement c'est le côté artistique en lui, quoi, parce que c'est particulier, c'est un peu comment dire, c'est un peu particulier, ouais, quand on voit Malem, il dégage quelque chose directement, tu vois Malem, ça dégage quelque chose, c'est ce côté artistique et artiste aussi qui dégage, moi je trouve que avant on s'exprime pas comme ça, les ancêtres ils n'expriment pas les choses comme ça, ils disent pas moi je suis artiste, je suis Malem, et le mot Malem ça contient beaucoup de choses. Je crois que les choses que c'est plus comme ça. Mais aujourd'hui, on utilise des termes musiciens, artistes, c'est ça. Allez, on va manger un petit peu.
راجع ليا هاد الهوى الحار ميت مكاو اللي مقام حرام عليك يا خوتي بستي ليا دير بالتي برما واما سوسان يديك برما كونو سوسان يديك برما واما سوسان يديك برما واما سوسان
Pour nous, c'est dès l'enfance. Dès l'enfance que le Gnawi apprend, c'est Gnawit. Par contre, dans des autres régions, ça s'apprend comme de la musique. Mais c'est différent au Maroc. Non, je ne suis pas Gnaoui d'origine, mais j'ai appris à l'âge de 12 ans, 13 ans. J'étais encore un gamin. Pour nous, les Marocains, la musique est dans le sang, comme nos frères africains. On a la musique et le rythme dans le sang. Dès notre enfance, on joue différents instruments, des tam-tams, des bendir et tout ça. Ça nous fait de nous des musiciens d'origine, sans études, sans rien. Impossible de que Tchagnaoui se disparaisse, parce qu'il y a des petits qui viennent après nous. Il y a la relève, si on peut dire. C'est ça l'intéressant et l'essentiel. Il y a des gens, des malm gnaoui qui jouent de la musique, qui fabriquent des gambri. Pas tout le monde, bien sûr. Pas tout le monde. Il y a des malm, des grands malm qui jouent pas, qui ne travaillent pas dans le champ gnaoui. Ils fabriquent comme ça des instruments. Il doit être fait et construit par amour d'abord. Il y a les meilleurs bois pour avoir un bon gambri. Il y a le noyer, les troncs du noyer. Il y a le safsaf, c'est un blanc, du bois blanc. Il y a du figuier. Ce sont les meilleurs bois pour les gambri. Et l'abricot, très léger, mais ça coûte cher, très très cher. Le mchmesh, c'est ça l'art gnaoui. C'est pas uniquement la musique.
J'ai voyagé au Maroc en 1972, à l'époque des hippies. J'étais un jeune hippie de 20 ans et je suis arrivé à Essaouira avec les poches vides et le cœur grand ouvert et j'ai découvert ce pays, l'Afrique, voilà, à cette époque. Et j'ai entendu la musique Nawa en fait à Marrakech, parce que je suis resté plusieurs mois au Maroc. Ensuite j'étais à Marrakech. C'est pas ici à Essaouira que j'ai découvert la musique Nawa, mais à Marrakech, sur la place. Et en écoutant cette musique, j'ai vraiment une révélation. Ça a été un déclic pour moi d'entendre cette musique. Et j'ai senti à travers la musique Nawa quelque chose, la force de la musique et quelque chose qui était en moi, qui devait être caché et qui pouvait se révéler. Et j'ai décidé, en rentrant de ce voyage, de devenir musicien. Donc mon histoire avec les Gnawa, elle est là. Elle commence à partir de 20 ans et elle a déterminé tout ce qui est arrivé pour moi après. Au niveau musical, et depuis cette époque, j'ai avec moi, les Gnawa sont des alliés, on peut dire. L'instrument, le gimbri est devenu le mien. J'en joue à ma manière, mais j'en joue beaucoup dans différents groupes depuis très longtemps. J'ai vécu depuis ces années avec la présence des Gnawa à côté de moi. Et puis, en 1998, on m'a proposé de venir jouer dans un festival qui avait lieu à Essaouira. Évidemment, j'ai accepté. C'était un petit festival, il y avait une petite scène sur la place, la Moulay Hassan. On s'est retrouvé avec quelques copains, dont Louis Bertignac et quelques autres, qui sont tous des amoureux du Maroc. Et puis c'était super, il y avait peut-être, je sais pas, 5-6 000 personnes. L'année d'après, on m'a réinvité étrangement, j'ai pas très bien compris pourquoi on m'a réinvité, mais enfin moi j'ai évidemment accepté, je m'étais éclaté la première année. Je suis revenu une deuxième année en 99 en tant que musicien. Et donc à la fin de ce festival en 99, j'ai reçu un petit coup de fil de Sundus El Kasri et Neil Atazi, qui sont les directrices du festival, et qui m'ont dit, écoute Loï, voilà, on te propose d'être directeur artistique du festival, est-ce que t'es ok? Et voilà, et depuis 10 ans, donc maintenant on est en 2009, 10e année, je fais donc la direction artistique du festival, je ne suis pas seul, on est deux autres. Il y a le Malem Abdeslam Ali Khan qui est un Malem Gnawa, qui lui est à la base un petit peu, qui était là déjà, qui était à la base des premiers festivals, qui a même créé ce festival dans sa tête avec d'autres. Et puis Karim Ziad depuis encore peu de quelques années, qui nous a rejoint. Voilà. Rare confrérie, en tout cas, pour moi en tout cas la seule, confrérie d'initiatique comme ça, des gens qui font de la transe sérieuse, qui est capable d'être schizophrénique, de faire la part des choses, d'être dans deux mondes. Ils peuvent switcher d'un monde à l'autre. Je crois que si tu vas voir les gens qui font du candomblé ou le vaudou haïtien ou les gens qui font du yoruba, eux, ils y vont droit direct, tu vois, c'est tout ou rien. Ils ont une distance vis-à-vis de tout ça, une certaine philosophie. Peut-être c'est dû à leur histoire aussi, tu vois, parce que c'est des gens qui ont déjà fait une fusion, ils sont déjà mélangés, tu vois, ils viennent d'ailleurs, ils ont dû faire un syncrétisme avec l'islam, déjà ils sont, tu vois, ils te parlent d'Allah et grand et tout le machin, puis derrière, après une fois que c'est fait, ils invoquent les génies de la forêt et tout, et ils se mettent en transe, ils éteignent les lumières, ils font des trucs de fou furieux. Tu vois, ils ont un certain humour, ils ont un certain, en tout cas, humour c'est peut-être pas le mot, mais ils ont une distanciation par rapport à tout ça, et tu vois, c'est des malins les Rinuknawa, attention, c'est peut-être les derniers grands malins qui existent sur Terre encore, enfin disons, de ce monde, les autres grands malins qui existent, on les connaît, les politiciens et les financiers, ceux-là aussi sont forts, mais les Gnawa c'est autre chose.
Allah day, Allah day, Allah day, Allah day.
Si tu connais un peu le rituel, bon, il est partagé en deux parties. Il y a la partie profane, la partie sacrée. Alors, au début, les Gnaouines jouaient les morceaux de la partie profane. Et puis très vite, ils se sont mis à jouer les morceaux des Mlouks, ce qu'on appelle les morceaux des différentes de la partie de sacrée, de des bas avec les couleurs, etc. Mais eux, ça ne les gêne pas. Eux, pour eux, ils savent faire la différence. Pour eux, le rituel, c'est vraiment le rituel. Il y a l'encens, il y a les sacrifices, il y a tout le machin. Le jouer un morceau comme ça sans rituel, ça n'a plus de sens sacré. C'est nous qui nous faisons on se fait des histoires, etc. Tu vois, moi je suis pas Gnaoui, donc ça me dérange pas. Ce qui me dérange c'est quand les Gnawa sont en porte à feu. Si tu les mets mal à l'aise, on les met pas mal à l'aise. Là, c'est eux qui décident ce qu'ils veulent jouer, quand ils veulent. Tu vois, on les force pas à jouer tel morceau, c'est eux qui décident. S'ils ont pas de problème à jouer un morceau des Blancs, tu vois, non, c'est ce qu'ils font maintenant pendant les concerts. Ils jouent les morceaux de la partie du rituel sacré, des Blancs, des Noirs, des Bleus. C'est aucun problème pour eux. Je pense que tant qu'ils sont pas dans le cadre du rituel, pour eux, c'est pas un problème de détacher un morceau comme ça en soi. Le morceau est pas sacré en soi. Ce qui est sacré, c'est la cérémonie, c'est le rituel. Prendre un morceau comme ça, ou prendre un bout en sang comme ça, ou tuer un animal pour le manger, tu vois, si tu prends séparément chacun des éléments qui font le rituel, l'esprit qui... Bon, bah ça, tu vois, c'est logique. Le morceau en lui-même, il n'est pas sacré, c'est le tout qui fait que c'est... Là, par contre, ils ne vont jamais faire sur scène, hein. Ils ne vont pas se mettre à amener une mokadam, à sortir les objets sacrés, le mettre pour l'encens, de zigouiller un bœuf sur scène, ça, ils ne le font pas, tu vois. J'espère qu'on va pas foutre tout en l'air, quoi. En gros, qu'on va préserver quelque chose et que le plus longtemps possible, et que d'autres grands malèmes vont arriver, et que la force que cette musique va pouvoir se conserver, mais je suis pas très très optimiste pour te dire la vérité.
Dans les familles, pendant les périodes dont j'ai parlé, précises, selon la tradition, le ramadan et après la fête, là, les gens organisent chez eux des lilas. Avant de donner la permission à un jeune de devenir malim, bien sûr, la première chose qu'ils vont faire, c'est de le tester, d'examiner. Il doit faire ses preuves, non pas seulement à la maîtrise du gambri et la maîtrise du répertoire. Ça, c'est très important. Sauf si on peut pas maîtriser, jouer avec les gambri. Comment dire, maîtriser le répertoire, c'est une chose, et jouer avec les gambri, c'en est une autre. D'accord. On peut avoir un gambri, effectivement jouer le répertoire gnawa et jouer autre chose, mais on peut, sur le gambri, ne jouer que le répertoire des gnawa. Et jusqu'à présent, en fait, on ne peut pas appeler malim n'importe qui. Ça, c'est une confusion que font beaucoup de gens. Ce n'est pas parce que quelqu'un prend le gambri qu'il joue quelques notes du répertoire gnawa qu'il est malim. Non. Malim, il doit maîtriser les khotal d'abord, le répertoire gnawa, donc au niveau du gambri, au niveau du répertoire des paroles à chanter, mais très important au niveau de tout le cérémonial, même thérapeutique. Parce que ma'alim, vrai ma'alim, si au lieu demain tu viens jouer une maison parce qu'il y a une femme malade, tu viens animer une lila traditionnelle, il doit savoir le faire, sinon ce n'est pas un ma'alim. Et ça, c'est beaucoup plus difficile. La maîtrise des étapes de la lila, des couleurs des différents mlouks, de, comment dire, classement des différents mlouks, des différents encens qu'on brûle pendant les mlouks, de la disposition de l'espace pendant la lila. Et ça, c'est très compliqué. Ça, c'est très compliqué. Ça commence par 4 heures de l'après. Le sacrifice. Malik Mahmoud, qui vient de décéder l'an dernier, c'était le grand spécial du sacrifice. Sacrifier un animal pour la cérémonie, ça ne veut pas dire prendre un couteau et couper la gorge du mouton. C'est tout un cérémonial compliqué. Il faut mettre par-ci l'animal, le tourner du côté de la kabla, il faut faire ses ablutions avant, il faut mettre dans l'encens, les gnawa doivent jouer ceci, non pas cela, ils ne doivent pas jouer de gumbri. Après, il faut faire cuire en premier lieu telle partie de l'animal sacrifié, non pas telle autre partie. Et le sang, il faut mettre le sang quelque part, etc. Ça, c'est des choses compliquées. Cette maîtrise aussi, pour devenir malim, il faut maîtriser tout un ensemble. Lorsqu'on dit le répertoire gnawa, pas seulement les paroles et la musique, c'est aussi tout le cérémonial selon lequel doit être organisée la gnawiya. Et le malim, c'est en quelque sorte maîtriser la culture, maîtriser ta gnawit, maîtriser la culture gnawa. Or, la culture gnawa, c'est pas seulement le gembri et le chant. C'est toute une culture, comme je disais tout à l'heure. On ne peut pas faire sur scène tout le rituel, parce que le rituel, c'est quoi? Ça commence d'abord par un espace. D'accord? Une façon de s'asseoir. Les femmes d'un côté, les hommes de l'autre. Il n'y a pas de chaises dans une lila. Les gens s'assoient par terre. Il y a une, ce qu'on appelle al-rahba, c'est-à-dire l'air où doivent jouer le ma'allem. Il y a une place où doit se tenir le ma'allem, etc. Donc c'est d'abord l'espace. Et les gens, la façon de se mettre dans l'espace, une espèce de cercle, une espèce de halqa. Déjà l'espace, c'est important. Et puis il y a l'encens, il y a les couleurs, il y a, c'est-à-dire, on peut, comment dire, simuler, ça c'est possible, simuler un peu, une petite partie, une étape sur scène, c'est possible. Mais montrer aux gens une vraie lila, ça ne peut jamais se faire sur scène. Ça ne peut se faire que dans une maison traditionnelle, selon les traditions, selon des pratiques bien précises. On mange ça et on ne mange pas ça, on boit comme ça et on ne boit pas comme ça. Il est interdit aux ivrons d'entrer dans la lila, etc. C'est un cérémonial très très compliqué.
À côté de la place de Bab Marrakech, il y a le marché des artisans. Et au fond du marché des artisans à droite, il y a un petit porche. Et on arrive dans une cour qui est à peu près carrée. Et dans cette cour, il y a un arbre à caoutchouc qui a, d'après ce qu'on m'a raconté, 360 ans. Bah, d'après ce que je suis en train d'observer, la montagne de racines et de branches qui sort du sol est littéralement en train de faire exploser la petite cour. C'est un arbre qui aurait été apporté par les Portugais. Et c'est un arbre qui a vu passer toutes ces années. Et On dirait un petit peu un éléphant. Il a une peau d'éléphant. Il a une écorce de peau d'éléphant. Il est un petit peu gris comme ça. On dirait une sorte de cuir. D'abord, il y a une espèce de tas de racines qui fait comme une espèce de rocher. Puis ensuite, il y a des très grandes branches qui jaillissent assez droites et qui cherchent la lumière, hein, parce que les murs sont hauts de cette cour. Et on dirait une espèce d'explosion, mais c'est une explosion qui dure depuis plus de 300 ans. Et là, on est tout à l'ombre, tout au frais. Et je pense que j'ai trouvé le véritable arbre à palabres des Sawera, à moins de se glisser dans cette petite cour, de passer ce petit porche. Personne ne peut voir qu'il y a un ancêtre qui garde la ville.